Vous écoutez
RMC.
RMC.
Le temps, c'est un truc qu'on n'a pas. Même le temps n'a pas le temps pour le temps. Le temps ne s'arrête pas. Là, j'arrête ma montre. Mais le temps, il continue. J'ai arrêté le temps de ma montre, mais pas le temps. Le temps n'a pas de temps, mais il faut du temps.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot. Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'After est là jusqu'à minuit, comme tous les soirs, bien sûr. Vous le savez, l'After continue en direct avec vous pendant toute cette période sans football. Et on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Cette période sans foot, évidemment, on va en parler ce soir. Tout ça uniquement sur RMC à la radio, vous le savez. L'After, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas. En radio travail, comme tous les soirs, Daniel Riolo est là. Daniel, bonsoir.
Bonsoir les amis.
Bonsoir Daniel.
C'est le docteur Rekia qui te parle.
Je me disais.
Bah, une voix.
Oui, il est là avec nous, Christian. Quoi. Alors, Christian, bouge pas. J'accueille Jérôme Antenne tout de suite. Jérôme, bonsoir.
Salut à tous.
Jérôme, bonjour.
Laure, bonjour, docteur.
Laure Le Payeur est également avec nous ce soir. Salut, Laure.
Bonsoir, Gilbert. Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Je précise que Julien Cazard sera là tout à l'heure à 23h40 pour le deuxième quart de finale du grand tournoi, le duel Le Payeur-Rotten ce soir, qui va être évidemment très très chaud. Donc à 23h40.
Elle transpire déjà, alors je sens d'ici.
Bon, alors là, moi j'ai aucune pression.
Bah, c'est normal.
Alors, bah oui, c'est
tout
normal.
À gagner.
Deux événements ce soir dans l'after. Vous aurez le temps de vous chambrer tout à l'heure, vous en faites pas. Deux événements ce soir dans l'after. D'abord la présence donc du docteur vedette d'RMC, hein, qui ne connaît pas Christian Rekia, qui est tous les week-ends le matin, vous donne ses conseils avisés médicaux, mais généralement conseils de vie, bien sûr. Et puis tous les soirs donc de 20h à 22h en ce moment avec toute l'équipe, bien sûr, pour ces émissions exceptionnelles. On va parler un peu de foot. Hein? Alors je sais que Christian, le foot, c'est
un
pas
un peu seulement en deux heures.
Le foot, c'est pas non mais avec Christian.
Ah.
On va pas parler de jeu avec Christian. C'est pas un spécialiste du 4-4-2. Vous voyez, c'est
d'accord.
Voilà.
Bien que je suis très minutieusement depuis quelques années le foot, parce que j'ai un collaborateur qui est dingue de foot, dingue du Paris Saint-Germain, son enfant de 8 ans fait du foot avec 10 ballons dans la chambre. Donc concrètement, quand je suis avec ce collaborateur, j'ai l'analyse le matin avant de commencer à travailler.
Ah oui, ça, quand on aime pas le foot, c'est fatigant.
Ce monsieur mesure 2 mètres, est un grand sportif, il s'appelle Sébastien, que je salue.
Donc tu peux rien dire, tu peux pas lui dire.
Il va falloir que je sois minutieux ce soir afin de me dire est-ce qu'il va rester dans l'entreprise, quoi, concrètement.
Exactement. Alors, autre événement également, tout à l'heure, suite aux déclarations d'Yvan Lemay, qu'on connaît bien dans l'after, il vient régulièrement nous voir, l'agent Yvan Lemay, qui estime que les clubs de foot ne devraient pas être aidés par l'État. Donc, évidemment, je parle là du dispositif de chômage partiel, on en débattra ensemble tout à l'heure aux alentours de 22h30.
Il sera là, Yvan ?
Non, il sera sans doute avec nous demain ou jeudi, puisqu'il est un peu occupé là en ce moment.
Donc c'est pas maintenant qu'on dit qu'on trouve sa prise de position très courageuse et qu'elle rejoint ce qu'ont fait certains supporters en Angleterre, notamment ceux de Tottenham.
Tu viens de le dire, mais on détaillera tout à l'heure.
Très bien, ouais. On en reparlera tout à l'heure.
Et puis à 23h, on ira en Suisse. Pourquoi ? Parce qu'en Suisse, vous allez voir qu'il se passe un truc assez dingue autour du club des Grasshoppers, c'est un club historique, un Grasshoppers de Zurich, qui se retrouve au milieu d'une lutte d'influence un peu révélatrice des tendances du foot actuel, donc repris par un fonds d'investissement chinois, des gens en foot qui ne connaissent absolument rien au foot, et puis qui se sont dit, on va demander à Georges Mendes, vu que c'est le mec le plus fort du foot européen, de s'en occuper. Oui. Donc on vous racontera ça tout à l'heure, vous allez voir que c'est assez édifiant. Le 32-16 pour tous ces sujets, le hashtag RMC Live et Direct Studio, bien sûr. Préambule avec Christian Rekia, parce qu'on en parlait avant l'émission, là. Et Christian, tu me disais que pour les enfants, le football est une pratique extraordinaire de développement personnel.
D'abord, l'activité physique pour un enfant est une façon très simple de s'équilibrer sur le plan mental, émotionnel et physique. Et cette activité physique doit être réalisée à l'école, mais en plus, 4 à 5 heures de plus, en dehors de l'école. Ça, ce sont mes bases. Et pour quelqu'un de jeune comme vous, concrètement, c'est-à-dire plus de 60 ans, je crois, eh bien, concrètement, il faut 10 heures de sport par semaine. C'est une façon...
Alors, moins de 60 ans, tu veux dire ?
Je parle de vous, là.
Ah oui, d'accord. C'est sympa.
Et donc, concrètement, l'idée, c'est de dire quoi ? C'est qu'au fond, soyons raisonnables, 4-5 heures d'activité physique pour un adulte, et je vais venir aux enfants immédiatement, c'est une
par
façon...
Par semaine.
4-5 heures par semaine, c'est une façon
largement dans les clous,
d'améliorer la qualité de vie et d'améliorer l'espérance de vie de au moins 10 ans. pour les enfants, pour les enfants.
Bonne nouvelle ce soir.
Quand je suis avec des parents,
on va aller jusqu'à 5
avec
ans.
Des parents sédentaires, quand je leur dis à l'UNSS, écoutez, je vous remercie, chers parents, d'avoir inscrit vos enfants à l'Union nationale du sport scolaire, 1 300 000 élèves. Eh bien, je vous remercie, mais ils vont faire 4 à 5 heures de sport en plus. Ces parents nous disent, à la fin de l'année, ils ont augmenté leur moyenne générale de 2 à 3 points. Le 5 décembre 2018, j'étais chez Lavillény, où concrètement, il y avait 400 finalistes d'athlétisme en salle. Eh bien, les inspecteurs généraux qui étaient là nous disaient, effectivement, Christian, ils sont finalistes, mais ils ont progressé de 2 à 3 points de moyenne générale. Non seulement ils s'entraînaient niveau finaliste France, mais en plus ils travaillaient mieux à l'école. Et le foot est comme la danse, un ascenseur neuronal, un architecte des neurones exceptionnel.
Donc, on le voit tous les soirs avec Jérôme Bretagne.
Non mais quand
je le vois. Quand je me lève le matin, je me dis putain, heureusement que j'ai fait du foot.
Je vous trouve super fêtatoire. L'idée, c'est que quand je vois votre corps, il y a encore des onctuosités et vous êtes un petit peu dodu par certains côtés.
Oh oui, exact.
Mais qui ça?
Jérôme.
Jérôme,
ah bon. Et donc concrètement, l'idée, c'est quoi? C'est de vous dire, pour être très sérieux, effectivement, une fille, un garçon, une fille qui fait de la danse, c'est un ascenseur neuronal exceptionnel, c'est redoutablement complexe.
Et le foot sont les deux sports.
Et on est tellement dans la vérité, c'est que les personnes qui, malheureusement, dans l'âge, subissent des maladies neuronales, parlons généralement comme l'Alzheimer, on leur fait faire de l'activité physique. On leur donne un ballon en mousse. On leur donne de quoi se réhabiliter avec leurs pieds. Et je reviens aux enfants. Un enfant qui ne sait pas jouer avec ses pieds, qui ne sait pas jouer dans l'espace, qui ne sait pas voir, qui ne sait pas anticiper, qui n'est pas dans la prospective, est un enfant qui stratégiquement sera moins bon dans d'autres sports. Et ce qui est fabuleux, c'est quand je vois Mbappé courir. Moi, j'ai fait beaucoup d'athlétisme dans ma vie. Je continue à faire 10 heures de sport par semaine minimum. Mais concrètement, quand je vois Mbappé, le niveau de course, la tenue de course, la tenue du bassin, la tenue des épaules, la tenue des bras, et puis cette façon d'anticiper le départ du ballon et d'y être avant le ballon quand les autres sont derrière à essayer de le rattraper, ce monsieur-là serait champion du monde d'athlétisme.
Pourquoi pas?
Ah, mais j'en suis sûr.
Pour avoir des prédispositions. Alors, parlons maintenant de notre prise, parce que hier on a eu un débat très enflammé dans l'after.
Que j'ai écouté, oui.
Oui, c'était audible? Pas tout le temps. Hein.
C'était. J'ai pas tout compris.
Alors, les joueurs semblent réticents pour certains, selon l'UNFP en majorité, mais nous on a des retours un peu différents. Enfin bon, bref. Certains joueurs semblent réticents à reprendre aujourd'hui dans les conditions du moment. Ils préfèrent éventuellement attendre. Alors, en tant que médecin, là, évidemment, le docteur Reykia suit toute l'actualité du coronavirus, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on reprenne sereinement? Je parle là des joueurs, hein, après on parlera des spectateurs.
Ce n'est que de l'humilité, du silence, dans la passion, parce que le sport est une passion. J'ai beaucoup écouté dans les débats et j'écoutais les après-midi. J'ai fait des émissions entre 14 et 16 et 18-20 et j'écoutais bien sûr les entre-deux. Et j'ai écouté un joueur français, champion du monde 2018 au Bayern de Munich, qui nous expliquait avec beaucoup de calme que les joueurs s'entraînaient 5 toutes les heures, qu'il y avait des tests toutes les 3 heures, que les gens partaient travailler.
Tous les 3 jours les tests.
Tous les 3 jours, pardon. Que concrètement, donc je répète, 5 joueurs par heure, un test tous les 3 jours, des tests répétitifs, des tests plus fiables qu'en France. Je répète que l'Allemagne, c'est quand même 25 000 lits de réanimation. Je rappelle que l'Allemagne, c'est 100 machines de fabrication de tests. Nous, on en est à 15.
Oui, mais là, le problème après.
Et là, concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui là dans un pays où tout est organisé pour la prospective et la capacité de rassurer. Ça, c'est très important. En France, il y a surtout la capacité à gérer l'absence d'outils, l'absence de tests, l'absence de masques. Ça, c'est la base, c'est le toile de fond. Ensuite, je viens aux joueurs.
Le paradigme allemand est plus adapté, en fait, au nôtre.
Voilà, et on gère l'absence de matériel, on gère le haut niveau d'incompétence. Et ce que je dirais d'autre, ce que j'aimerais savoir vous expliquer, c'est qu'au fond, moi j'aurais envie, si j'écoute Sébastien, que les matchs reprennent. Parce que j'aurais envie que le championnat reprenne. J'aurais envie de voir le PSG rejouer la Coupe des Champions. J'aurais envie. Mais il faut aussi dire à ces joueurs qu'il y a une façon de jouer, une nouvelle façon de réapprendre à jouer, une nouvelle façon d'aller se doucher, une nouvelle façon d'aller s'entraîner, qu'il faut repenser. Ça, c'est ma vision personnelle du combattant. Maintenant, le vrai souci, et je terminerai là, cette première partie, c'est qu'au fond, c'est se dire, si un joueur est positif pendant un match, faut-il mettre en quatorzaine l'ensemble de l'équipe, et c'est là où ma compétence s'arrête, parce que concrètement il peut y avoir là des complexités majeures. Cela dit, il y a des médecins, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a des médecins qui encadrent remarquablement les équipes, il y a des contrôles qui peuvent se faire.
Parlons du match, parce que le match, évidemment, il y a des contacts physiques, donc il y a transmission de gouttelettes, hein, pour être concret. On a quand même une population, les footballeurs, qui sont très entourés médicalement, médecins présent en permanence au bord du terrain. C'est une population qui est très suivie. Elle est plus suivie qu'une population, je sais pas moi, d'ouvriers qui va à l'usine, des gens qui bossent dans un resto ou autre. Donc, est-ce que, malgré tout, ça limite les risques ?
Les risques sont les mêmes. Quand on fait un test à 12h01 aujourd'hui, un test PCR, exactement, comme le veut le gouvernement, à 12h04, on peut être infesté parce qu'on a rencontré un ami qui vous a envoyé un postillon à 400 km à l'heure, à 4 mètres, quoi, concrètement. Donc, ce qui veut dire clairement qu'il faut intégrer une autre notion. La toile de fond qu'il faut voir sur le plan stratégique, c'est que cette crise majeure, mondiale, va durer jusqu'en 2022. Ça veut dire qu'il faut arrêter le tennis, l'athlétisme, les Jeux Olympiques jusqu'en 2022. Il faut s'organiser, penser, on est intelligent, on est fin, pour essayer finalement de passer entre les gouttes. Et je suis incompétent, mesdames et messieurs, hein. Je suis totalement incompétent. Mais j'aimerais vous dire, peut-être qu'il faudrait avoir des équipes de 33 joueurs. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi.
Oui, non, là, Christian, non.
Non, très bien. Et se dire, avec une grande réserve.
Ah, mais déjà pour faire du turnover,
c'est ça. C'est ça, voilà, absolument.
Oui, ça, c'était déjà le cas. Donc, ça veut dire déjà le cas. Alors, je résume, ça veut dire que si on veut le risque zéro,
C'est pas possible. Voilà. Soyons clairs, mathématiquement, physiquement, physiologiquement.
Jusqu'au vaccin, docteur, le risque zéro n'existera plus.
N'existera jamais. Mars 2022.
Effectivement, le risque zéro, il va pas exister. Qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement pour limiter au maximum les risques? Et voilà, pour pouvoir éventuellement reprendre et limiter au maximum. C'est là la question.
Alors c'est la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que je constate dans les entreprises qui sont aujourd'hui en cours de continuité d'action ? Les entreprises ont véritablement changé leur action stratégique sanitaire. Ils ont tout réorganisé. Ça, c'est des entreprises. Mais quand on est dans une entreprise, on ne joue pas au ballon, on ne fait pas du corps à corps, on n'est pas à transpirer à 50 cm l'un de l'autre. Donc il faut repenser le jeu. Pour moi, j'ai envie qu'il joue. C'est sûr que pour le tennis, c'est plus facile. Ça, c'est évident. En changeant les balles très régulièrement, c'est extrêmement facile. Le tennis n'aurait jamais dû s'arrêter. Il n'aurait pas dû avoir autant de temps d'arrêt pour le tennis. Ça, c'est ma conviction personnelle pour jouer très, très régulièrement au tennis.
Surtout dans les clubs de tennis. Ça sert à rien parce que dans un club, s'il y a 6 courts, on est 12 et on peut être très loin les uns des autres.
Et je dis au président
du
tennis.
Si mon club m'écoute, il faudrait qu'il joue immédiatement.
Monsieur le président du tennis de France, veuillez vous stimuler. D'une absence de tennis.
Attends, puisque chacun parle de son sport, dans les piscines, il y a un risque ou pas dans l'eau ?
Oui, il y a un risque. Il n'y a pas un risque dans la piscine. Il n'y a pas un risque dans l'eau, parce que dans l'eau,
il y a les parties communes.
Voilà. Mais là, si vous voulez, soyons très clairs. Dans l'eau, il n'y a pas de risque. Mais on peut organiser avec un surcoût humain, un nettoyage exhaustif permanent qui vous divise par 10 000 les risques. Et vous aurez beaucoup moins de risques à la piscine qu'en allant chercher votre lait ou vos œufs au supermarché.
Que finalement, les joueurs de foot, peut-être qu'ils vont avoir moins de risques parce que ça va être très contrôlé, tests et compagnie. Il va peut-être y avoir moins de risques sur le terrain entre eux que dans leur vie sociale en dehors.
Mais bien
c'est-à-dire
sûr.
Quand ils vont faire leurs courses, quand ils vont voir leur famille, quand.
Voilà. On est d'accord quand même que.
Oui, tu peux arrêter de manger pendant l'émission, ce serait agréable.
Ça vous fait sécréter de l'insuline, c'est pas bon pour vos onctuosités, si je puis me permettre. Hein. Et la dernière fois que je vous ai vu, vous en aviez déjà pas mal. Hein.
Oh, mais non, je suis super en forme, docteur.
Ah bon, vous êtes minci, vous avez perdu le kilo 2.
Vous avez bien eu quelques petits bourrelets, quoi.
Tant que c'est qu'un seul kilo, franchement,
ça parce que là, il y en avait 4 ou 5.
Non, mais je vous entends manger des chips, concrètement.
Non, franchement, c'est pas des chips, c'est un petit bout de chocolat, toujours pendant l'émission, un petit bout de chocolat.
Ah, d'accord.
Ça faisait partie du grand panier qu'on m'a offert pour mon anniversaire avec plein de super produits. Je ne connaissais pas cette marque qui s'appelle le Petit Duc.
Je
ne
connais pas.
Ça a l'air très très bien. Oui, je disais, sur cette histoire de risque, il paraît assez difficile à croire qu'on démarre en juin, qu'on démarre en septembre, qu'on démarre peu importe quand, à un moment ou à un autre, on n'apprend pas dans tel ou tel club qu'il y a un mec positif. Est-ce que psychologiquement, il ne va pas falloir également, et ça c'est un autre domaine de la médecine, mais est-ce que psychologiquement, il ne va pas falloir également s'habituer à ce que, au terme d'un entamien, j'en sais rien, je dis ça au hasard,
oui.
Tiens, merde, il y a un tel qui est positif. Comment on va se mettre à gérer ça entre la trouille des autres, la trouille des contacts que les uns ont pu avoir avec les autres? Cet aspect-là, ça va être également assez dur à gérer, parce que comment croire que ça n'arrive pas?
Alors, la question que vous me posez ouvre chez moi un paradigme de pensée spécifique. C'est-à-dire qu'au fond, je dirais la chose suivante. Si les entraînements qui doivent se faire se font à la méthode allemande avec des distances.
Mais c'est pas possible au foot.
C'est pas possible sur le long terme.
Avant le match,
il peut y avoir une préparation physique avec tout ce qu'il faut. Et je connais la préparation d'un footballeur. On peut se passer d'un contact physique avant le match. L'idée, c'est d'être d'une rigueur implacable, avec une méthodologie médicale, et les médecins ont largement le niveau pour faire. Ouais. Et là, concrètement, ça permettrait d'encourager la mise en place du championnat. Ensuite, pendant le match, dès lors qu'on a testé les gens, sachant, mesdames et messieurs, qu'on va mathématiquement avoir des tests de plus en plus fiables, qu'on va mathématiquement avoir aujourd'hui des tests sanguins au 15 juin qui vont avoir une fiabilité remarquable. Vous serez réellement négatif ou vous serez réellement dans la positivité. Et ça va beaucoup vous aider. Ça veut dire que stratégiquement, les stratèges du foot et les économistes du foot vont devoir et des autres sports vont devoir se dire, eh bien c'est clair. Nous avons maintenant des tests sanguins de rang européen extrêmement fiables. Nous allons les utiliser extrêmement fréquemment. Les joueurs, quels que soient les sports co, vont devoir organiser donc des tests, subir ces tests, accepter ces tests et partir au combat, comme aujourd'hui, un camionneur, un pompier.
Faut-il les avoir à disposition aussi?
Ça veut dire.
Parce que c'est pas la directive du gouvernement.
Madame, vous avez raison. C'est pour ça que je parlais d'incompétence tout à l'heure, mais personne ne m'a entendu. Et l'idée, c'est de se dire que concrètement, c'est à partir du 15 juin que sur le plan européen, on aura. Les Allemands les ont déjà.
Quand vous dites partir au combat, ça veut dire partir travailler en sachant que il y a un risque.
Il y aura un risque au-delà même de 2022.
Mais Gilbert, mais le docteur, il vient de te le dire, et le risque, il existera jusqu'en 2022.
La vie est claire et nette. Je me permets de vous interrompre, monsieur, parce que un point. Veuillez m'excuser. C'est passionnant. J'aimerais vous dire que en France, en Europe et dans le monde, il y a même des outrecuidants personnages, femmes et hommes, qui vont même refuser de se vacciner contre le Covid. Voyez, donc le risque existera toujours.
Même pour ça, on va encore croiser ce genre d'idiot là.
Mais vous allez voir. Il y a des gens bizarres partout. Mille excuses, je vous ai interrompu, monsieur. Mille excuses. C'est de vous dire au fond, eh bien oui, jusqu'en 2022, nous sommes en risque maximal. Plus on approchera 2022, plus le risque sera petit. Et donc le risque peut commencer à partir du 15 juin, dès lors que les tests sanguins sont présents. Avant, les autres tests n'ont aucun intérêt.
Mais pourquoi vous dites 2022 depuis tout à l'heure?
Parce que ça sera véritablement...
Que le vaccin, ce sera 2021.
Non, la phase industrielle du vaccin sera terminée fin 2021 et nous serons vaccinés début 2022.
D'accord. Alors Jérôme, tu voulais poser une question ou faire une remarque? Je ne sais pas.
Non, mais la remarque, c'est exactement le débat qu'on avait hier où Daniel n'était pas d'accord, et toi aussi. Et ce qu'on disait, nous, avec Pierre, on se mettait à la place des joueurs. C'est une façon de les rassurer. Le joueur, il n'est pas trop con non plus. Il sait très bien qu'au bout d'un moment, il y aura un risque et que le risque zéro, il n'existera pas jusqu'au vaccin.
Vaut mieux se le mettre en tête dès maintenant.
Ah oui.
Mais sauf que tu te le mets en tête, le docteur vient de te le dire, c'est déjà avant le 15 juin, on n'aura pas la certitude sur le dépistage. Sur les tests sanguins, mais c'est quand même important ça. c'est quand même important. De, alors ça veut dire que à mi-mai où on est sûr de rien encore, et bah tu vas faire reprendre.
C'est là où, c'est vous prenez, où tant qu'il n'y a pas les tests sanguins, c'est peut-être le 10 juin, c'est peut-être le 7 juin, c'est peut-être le 20 juin.
Et oui.
Tant qu'il n'y a pas les tests sanguins, le top départ, c'est des tests sanguins fiables. Et si j'étais président d'une commission foot, je dirais ben voilà, c'est simple, mesdames et messieurs, on commence quand l'ensemble des joueurs à un moment T à une heure X soit totalement négatif avant de commencer le match et on fait ces tests régulièrement.
C'est ce qu'on dit.
Je vous ai entendu
le plus
dire
souvent,
ça.
Oui, alors, et c'est toujours le préalable qui me semble tellement évident que je l'enlève toujours de la conversation depuis une semaine. Je dis évidemment c'est avec protocole médical et quand je dis protocole médical c'est que le test est fiable et qu'on démarre avec des mecs sains. Voilà.
Alors,
moi, je trouve qu'on peut pas dire plus que ça et qu'après qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Tous ceux qui tergiversent depuis deux semaines, je leur dis, vous avez tort. Parce que, vous l'avez dit, docteur, jusqu'en 2022, on aura cette espèce, je ne sais même pas si on peut dire épée de Damoclès, parce que la grande majorité des gens s'en sortent. Alors qu'épée de Damoclès, quand elle tombe, normalement, vous n'en sortez pas.
Il faut dire, 95%.
La grande majorité s'en sort. Donc, vivre avec ça, vivre avec ce risque qui, certes, n'est pas commode, surtout dans nos sociétés d'aujourd'hui qui sont plus que précautionneuses. Oui, ce sera difficile, mais c'est une nouvelle réalité, une nouvelle vie qui s'ouvre devant nous pendant un an et demi, deux ans.
La moyenne des décès est 84 ans. Hein. La moyenne des décès, c'est 84 ans. Il faut bien l'entendre.
C'est vrai.
On ne va pas mettre à plat une économie mondiale pour... Pardonnez-moi, je suis brutal quand je dis ça, parce que je suis médecin.
Non,
je défends la vie jusqu'au dernier souffle. Mais concrètement, vraiment, on est avec des gens de très haut niveau métabolique. On est avec des gens qui ont ça sans chevaudine de métabolisme.
Vous savez ce qui fait peur en France, c'est le mot que vous avez prononcé, c'est le mot « il ne faut pas mettre à plat une économie ». Quand on dit économie en France, c'est un gros mot.
Eh oui.
En fait, derrière le mot économie, ce qu'il faut comprendre, c'est en gros, il faudrait que vous trouviez une autre formule de phrase, dire ce n'est pas que l'économie, c'est également le social, c'est également tout simplement la vie des gens qui n'est pas et qui ne peut se résumer, même si la santé est quelque chose de capital. Derrière, il y a d'autres choses. Il y a le bonheur, le travail, qui sont également des valeurs.
La vie sociale dans les quartiers. La vie sociale dans les quartiers, c'est très important.
Revenons à nos stades de foot. On a parlé des joueurs, donc on a bien compris votre doctrine. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu des tribunes. Il y a une proposition qui a été faite en Allemagne, où il y a des grands stades de 80 000 places. Et les Allemands disent, pourquoi est-ce qu'on n'autoriserait pas 20 000 personnes à venir en les plaçant tous les 5-6 sièges? Voilà, pour avoir du monde quand même dans les stades, mais avec des précautions. Alors ok, ça semble un peu dingue de se dire bah tiens, toi tu t'assieds à 5 places du sud à côté, puis toi à 3 rangs au-dessus, voilà. Ça permettrait quand même d'avoir du monde au stade. Alors en France, les gens y réfléchissent, la Ligue y réfléchit, mais on a un problème, c'est pas tant les placements dans le stade, c'est l'entrée au stade et la sortie du stade. Alors qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Une fois que le déconfinement sera passé, est-ce que ça vous semble un truc réalisable? Ou alors est-ce que c'est totalement utopique et n'importe quoi?
Le déconfinement passé, il faudra confiner relativement, il faudra vivre différemment jusqu'à ce que le monde soit vacciné. Au-delà de 78% de la population mondiale. Soyons très clairs, ce que vous proposez là, c'est bien. En Allemagne, j'ai travaillé en Hollande pendant 5 ans, ça marche. Parce que les gens sont ordonnancés, sont méticuleux, sont respectueux.
Ah, c'est pas un truc pour payer la
tâche. Et concrètement, en Allemagne, je suis né à la frontière allemande, je suis d'origine suisse-italienne, on est structuré. Et là, ça fonctionne. Il faut donc avoir confiance et il faut faire confiance aux gens. Moi, j'ai totalement confiance en des personnes à qui on dit, voilà, c'est tous les 3 mètres. Et puis, vous restez fixé sur le plot qu'on vous a mis. J'ai confiance. Maintenant, il y aura toujours des personnes perchées qui vont...
Oui, qui respecteront pas les règles.
C'est pas plus qu'aujourd'hui, dans le bois de Vincennes, où le matin à 7h, quand je fais un footing avec Olivier Rachinel, mon copain, et ben, concrètement, je vois...
À 10 mètres d'écart l'un de l'autre, attention.
Ben, oui, mais non, mais pas du tout. Les gens font des... Mais les gens sont en couple, l'un à côté de l'autre. C'est 4 mètres, en fait. Le plasma des micelles viraux, c'est 4 mètres, concrètement. Donc, ça, il faut bien. Alors, dans les 4 mètres, il n'y a pas que des virus actifs. Il y a aussi des parcelles, des morceaux de virus. Donc, ça, c'est 4 mètres. Mais les personnes n'ont pas entendu ça. Et je le vois bien. Donc, finalement, si les gens vont dans un stade où il n'y a que 20 000 personnes au lieu de 60 000, mais c'est déjà 20 000 d'acquis. Et c'est la vie du jeu qui continue. Moi, je suis pour.
Merci, docteur Rekia.
Ouais, c'est vrai que cette idée,
merci beaucoup.
Je l'ai lue aujourd'hui, j'ai trouvé intéressante. Ouais.
Merci beaucoup d'être venu
voir la fête. Merci de m'avoir invité. Docteur. Je reviens quand vous voulez, c'est-à-dire tous les soirs.
À la prochaine. C'est déjà de 9h à 20h, ça c'est sûr, comme tous les soirs.
Eh bien, messieurs, les onctueux, perdez du poids autant que faire se peut.
Ok, il nous met la pression, docteur, là, quand même. Hein. Attends, ah ouais. Zéro, merde.
Il n'a pas parlé de l'or parce qu'il sait que l'or, il n'y a rien.
Je me permettrai pas, c'est avec beaucoup de délicatesse.
Dans quelques instants, on est de retour avec donc le coup de gueule d'Yvan Lemay, agent de joueur, qui reproche au club pro de solliciter l'État dans le cadre du dispositif de chômage partiel. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a tort? On en débat dans l'after. Et puis tout le reste de l'actu du jour, notamment l'actu hollandaise. Hein, parce qu'attention, les Hollandais ce soir ont décidé de ne pas reprendre le foot avant septembre. Et ce n'est pas la Fédé, c'est l'État aux Pays-Bas qui l'a décidé. Toutes les infos dans quelques instants dans l'after.
RMC, l'Afterfoot, Gilbert Bribois.
Avec Laure Le Payeur, avec Jérôme Rotten, avec Daniel Riolo, je rappelle, le deuxième quart de finale du grand tournoi, Le Payeur Rotten, tout à l'heure, bien sûr, qui, s'il fait autant couler d'encre que celui d'hier soir, c'est qu'il sera au niveau.
Ah oui, c'était chaud hier soir.
Hier, je vois pas quelle encre a coulé. J'ai vu de l'arnaque couler, mais pas d'encre.
Ah bon?
Ouais, c'est vrai qu'il
est. C'est marrant parce que pour quelqu'un qui n'arrête pas de râler après les gens qui chouinent, là, tu n'arrêtes pas de chouiner, toi. C'est terrible, non?
Mais j'ai assisté à un spectacle déplorable.
Il voulait que tu chutes, Gilbert.
Je m'élève contre la justice.
Évidemment. Tu sais, quand il y a Nadal et Federer dans un tableau, forcément, on veut qu'il tombe. Non, mais... C'est toujours pas grave.
Non, en l'occurrence, je trouvais que la justice. Aurait été de voir Kevin gagner, mais bon, voilà, c'est tout.
Ah ouais, mais le sport, parfois, c'est pas la justice.
Ah, bah, je suis content, c'est un aveu.
Il a dit signora, c'était signori, si tu veux, ça s'est joué là-dessus. Hein.
C'est bizarre, c'est un aveu.
Signora, je pense qu'il a reçu un message de quelqu'un qui lui a écrit signora un peu vite. Tu vois,
à mon avis, c'est même sûr, ouais. C'est même sûr.
Je sais pas, mais en tout cas, je pense que c'est un aveu.
Il y a un peu de la triche dans l'air.
Tu viens de dire.
Il pourrait y avoir des SMS qui ont été refusés. Selon mon enquête.
Ouais. Moi, je viens d'avouer que.
Oui, tu viens d'avouer que t'as envoyé des SMS à Kevin, ouais.
Non, tu viens d'avouer, toi, que la justice n'était pas sortie grandie.
Non, mais écoute, moi, je suis joueur. Après, l'arbitre me donne le point, je prends le point. Je vais pas aller lui dire, monsieur l'arbitre,
ça fait
le VAR.
Ça existe, hein, ça existe.
Là, tu vas surtout pas demander le VAR, effectivement.
C'est quand même deux tours très litigieux, Gilbert. Hein.
Mais oui, mais c'est quand on démarre les tours de porter
en seigneur.
On les finit toujours de façon grandiose. Alors, fin de saison aux Pays-Bas, pas de foot cet été. Alors, c'est tout ça, attention, hein, c'est une conclusion qu'ont tiré les clubs néerlandais suite à l'intervention ce soir du Premier ministre qui s'appelle Mark Rutte, qui a dit qu'il n'y aurait aucun rassemblement d'ici septembre donc d'autorisé aux Pays-Bas. Donc, pour la Ligue de foot aux Pays-Bas, c'est saison terminée. Alors, d'autant qu'en plus, les clubs... ont cette envie, hein. C'est-à-dire que vous savez qu'aux Pays-Bas, en fait, il y a moins de pression des droits télé parce qu'il y a des droits télé très faibles, donc les gros clubs ne vivent pas principalement les droits télé, contrairement à nous. Et donc, en gros, on s'oriente là vers une fin de saison. Alors, je rappelle qu'une nouvelle fois, l'État, ça passe au-dessus des décisions de l'UEFA, hein. Donc si l'État néerlandais le dit, l'UEFA ne pourra
ça,
absolument.
Ça, on l'a dit depuis le départ, voilà. Nous, hein, que tout le monde se rongeait parce que dans ces cas-là, tu entres dans le cas de la force majeure. On a expliqué tout ça.
Exactement. Alors, il reste 8 journées à jouer, hein, aux Pays-Bas. C'est l'Ajax qui était en tête. À la différence de but devant l'AZ Alkmaar. Hein. Donc ça se jouait vraiment à rien du tout. Donc à suivre, que va-t-il se passer désormais? Est-ce que l'UEFA va entériner cela? Ce qu'il n'a pas fait avec la Belgique l'autre jour, rappelez-vous, parce que les Belges, bon, ben là c'est la Ligue belge qui a pris l'initiative, c'était pas l'État belge. Voilà, donc il faut qu'on suive un peu
près. Ils avaient pris la décision très tôt, les Belges aussi. Hein, donc,
là, ils sont en train d'y revenir.
Parce qu'ils n'ont pas eu le choix.
Il l'arrête en l'état ou il considère une saison blanche?
On n'a pas plus d'infos là, tu sais, c'est tout frais. Donc
non, apparemment, c'est en l'état. Hein.
Ouais.
Mais on ne sait pas comment ils vont attribuer les places, qui ira en Coupe d'Europe l'année prochaine.
Alors d'ailleurs,
à partir du moment où l'État décide de quelque chose, on n'est plus dans le même, on n'est plus dans le bordel qui est celui qu'on voit en France depuis plusieurs semaines. Il y a eu quelque chose de décidé au sommet. C'est
là-dessus, sur la décision de l'UEFA, il y a un truc quand même qu'on a appris aujourd'hui qui pourrait avoir son importance dans les désignations pour la Coupe d'Europe. L'UEFA évidemment est obligée de prévoir divers scénarios. Bon, ça reprend pas. L'UEFA pousse pour que les championnats reprennent. Une nouvelle fois, ils l'ont fait aujourd'hui. Je rappelle que jeudi, il y a cette fameuse réunion. Mais l'UEFA, quand même, se dit, bon, si jamais ça ne reprend pas, comment on fait? Eh bien, la Repubblica, aujourd'hui, qui est un journal sérieux en Italie, a évoqué une idée qui émerge à l'UEFA. C'est de reprendre la main, dans le cas où les championnats ne se font pas, avec le coefficient des clubs.
Alors ça.
Je connais quelqu'un en France qui va tout faire pour que ça reprenne pas. Alors, je connais quelqu'un qui va mettre une pression de dingue dans le camp de ceux qui veulent pas que ça reprenne.
Parce que si on s'arrête, si on prend la France
Paris,
aujourd'hui,
Paris, Lyon, Monaco.
Exactement. Les coefficients des clubs, ça donnerait en Ligue des Champions Paris, Lyon, Monaco. Et qui sait qui se ferait en gros arnaquer?
L'OM.
L'OM, voilà, qui n'est pas dans les trois premiers clubs français au coefficient UEFA.
Ah, mais là, ça serait une énorme injustice.
Ce que je trouve absolument scandaleux. Si l'OM se fait fourrer là-dessus, mais c'est un scandale total.
Mais c'est surtout qu'en plus. Ouais, mais c'est surtout que même par exemple par rapport à Monaco, ils ont fait aussi des erreurs sur les dernières années dans le recrutement, etc. C'est-à-dire que tu pénalises des clubs qui ont bien travaillé sur les dernières années. On prend notamment l'exemple, par exemple, de Lille, qui, bah, ces dernières saisons ont réalisé plutôt des bons coups. Et eux, bah, seraient pénalisés, seraient carrément exclus.
Et puis Rennes, qui est dans une dynamique totalement neuve.
Exactement. Donc, moi, je trouve que ça serait vraiment, en termes d'équité, cette décision, c'est la plus catastrophique, à mon sens.
Mais l'UEFA a dit, dans le cas où on ne trouve pas d'accord et tout ça.
Mais ça veut dire que c'est une hypothèse quand même.
C'est bien pour ça que je précise. Alors, on en arrive à Yvan Lemay, qu'on connaît bien dans l'after. Il est venu nous voir régulièrement. Yvan, agent de joueur marseillais bien connu.
Autre sujet, ça.
Oui, autre sujet. Et alors, petite interview dans l'équipe ce matin, où il dit, et c'est quand même, en France, en tout cas, la première voix qui s'élève en la matière. On avait déjà entendu des supporters en Angleterre le faire, notamment ceux de Tottenham. Il dit, écoutez, c'est très simple, moi je ne comprends pas que des clubs de foot professionnels qui génèrent beaucoup d'argent et qui sont gérés par des fonds de pension fassent appel à l'État, et qu'en gros, l'État, c'est-à-dire l'argent du contribuable, contribue à apporter de l'argent à des fonds de pension. Voilà, c'est ce que dit Yvan Lemay. Pour moi, c'est pas assez honteux, Yvan Lemay. Donc, je voulais quand même qu'on en débatte. Alors, il n'a pas pu être avec nous ce soir. Il sera peut-être avec nous sur l'autre demain ou après-demain. On va voir avec lui. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec cette prise de position d'Yvan Lemay ou pas du tout, parce que vous considérez peut-être que les clubs de foot, les entreprises comme les autres.
Ce que dit Yvan m'a fait penser immédiatement à ce qui s'est passé en Angleterre, où les supporters, notamment de Tottenham, mais pas que. Ont en gros adressé le message à leurs joueurs qui était le suivant: ne prenez pas l'argent de la collectivité, vous êtes assez payé normalement, pour ne pas avoir à toucher le chômage partiel. Sous la pression, les joueurs de Tottenham se sont rangés du côté de leurs fans. D'ailleurs,
Daniel, c'est le club qui s'est rangé, c'est le club qui a dit très bien, on n'aura pas recours au chômage partiel.
Bien sûr, mais je voulais dire sur ce que demandaient les supporters. D'ailleurs, dans les actions qu'ont menées les supporters récemment, là, et notamment avec leur communiqué, ça m'aurait semblé être une meilleure idée que ce qu'ils ont avancé, à savoir qu'il fallait tout arrêter. Mon avis, c'est que Yvan Lemay a parfaitement raison, et que je trouve qu'il y a des entreprises, et qu'il y a des domaines, et qu'il y a des niveaux de salaire où certaines personnes, d'eux-mêmes, devraient dire « Bon, ok, je vais pas demander l'appui de l'État ». Voilà. Je trouve qu'Yvan Lemay a raison, et c'est courageux.
Par exemple, dans le cas de Tottenham que tu exprimes, moi je le rejoins parfaitement, ce qui a été la prise de position qui a été faite par rapport à ça, mais Tottenham est un club riche, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les autres clubs. C'est-à-dire que moi, la prise d'opposition, moi, je trouve que son honnêteté, sa franchise, c'est très louable, et notamment quand on sait son métier, qu'il est agent de joueur. Mais sur le fond, il a complètement raison, parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres priorités, et il mentionne notamment le domaine médical et le domaine social, qui pour moi est primordial. Mais aujourd'hui, effectivement, certains clubs pourraient prendre ces mesures, mais
oui,
d'autres
Laure,
qui ont beaucoup moins de moyens.
Laure.
Beaucoup moins de moyens ne sont pas capacité de se passer des aides de l'État. Parce que forcément, un club, c'est comme une entreprise. Il y a les joueurs, mais il n'y a pas que les joueurs aussi.
Bien sûr qu'il y a des cas particuliers. Non, mais pour les joueurs, alors, tu comprends bien que j'entends parfaitement ce que tu dis. Et tu as raison, tous les joueurs ne gagnent pas des milliers, des cents, machin. Mais il n'empêche qu'en Ligue 1, on est sur des salaires médians qui sont toujours au-dessus de 50 000 euros par mois. Avoir affaire au recours au chômage partiel, je rejoins Yvan Lemay. Quand tu as des clubs, alors pas tous, mais tu as des clubs, bon, le PSG, on n'en parle même pas, et carton. Tu as des clubs comme Rennes, qui sont adossés à un groupe industriel comme Pinot, mais même l'OM, avec un mec qui est blindé comme McCourt, la plupart des clubs sont quand même Monaco, adossés à des gros groupes et tout.
Je vais arriver à ça parce que c'est mon argumentation, ça, les différenciations à faire. J'aimerais que Jérôme donne son point de vue.
Au bout d'un moment, je trouve que la décence devrait l'emporter, mais bon.
Jérôme. Écoute, moi, mon point de vue, il est totalement à l'opposé de ce que dit Daniel maintenant.
Ça aurait été très étonnant de la part d'un ancien joueur.
Bah, c'est son avis.
Bah, écoutez, excuse-moi, c'est mon avis. Donc, je t'ai laissé parler. Donc, les clubs, ils payent énormément de charges patronales, ils payent énormément d'impôts. Si tu fais le bilan, et Eric Dimeco l'a fait tout à l'heure très très justement, quand tu vois le montant qui est versé par ne serait-ce que le Paris Saint-Germain, il n'y a pas que le Paris Saint-Germain hein, dans le football français. Aujourd'hui, il y a une aide de l'État. T'as des devoirs et les devoirs, c'est de payer ces sommes-là et le Paris Saint-Germain le fait comme tous les autres clubs le font. Et t'as des droits aussi et ça fait partie des droits. Je crois que c'est il faut pas oublier ça et c'est pas parce que les clubs ne vont pas réclamer.
Ce serait quoi le geste de solidarité d'un joueur, Jérôme, au bout d'un moment,
Il faut arrêter avec les gestes de solidarité. Les footeux ont montré depuis le début qu'il y avait beaucoup de solidarité.
Bah, d'accord. Pour l'instant, rien, des clopinettes.
Mais pourquoi des clopinettes? Tu sais les dons que les joueurs font, ce qu'ils organisent, tu le sais, toi? Tu connais, c'est pas parce que tu fais un don que t'es obligé de le dire publiquement, Daniel. Il faut arrêter de dire des bêtises. Est-ce que moi, tu sais si j'ai fait un don ou pas?
Voilà, non, mais c'est tout. 3-4 exceptions. Moi, je te parle.
Mais il n'y a pas 3-4 exceptions. Tu dis des conneries parce que la solidarité.
Je trouve que tu abuses un peu sur la défense des joueurs. Mais j'abuse pas du tout. Mais un corporatisme qui est un peu. Mais oui, parce que
t'es pas d'accord. Mais peu importe. T'as ton point de vue.
La question n'est pas d'accord.
Moi, je dis, pourquoi? Il faut que je te donne raison. Quand tu dis oui, il a énormément de courage. Je suis tout à fait d'accord avec l'agent Yvan Lemay.
Et bah, écoute,
pour moi, j'ai le droit de dire qu'il a dit une grosse connerie, c'est tout.
Écoute, c'est mon point de vue. T'as le droit de le dire.
Et bah oui, il faut le respecter.
Tu crois pas qu'un joueur qui gagne 90 000 par mois pourrait dire je touche pas le chômage partiel? Tu crois pas que les supporters de Tottenham, quand ils demandent ça aux joueurs et que les joueurs finissent par accepter, ils ont pas raison?
Mais on s'en fout, me parle pas de l'étranger, parle-moi de la France. À chaque fois que je veux te parler de l'étranger,
tu veux jamais, à chaque fois que je veux dévier sur
mais
le
alors,
sujet.
Mais alors, à part Tottenham, il y a qui a fait ça, Daniel? Mais il y a qui, combien de clubs ont fait ça?
Plein de
mais
clubs,
combien de clubs ont fait ça?
Il y en a aussi beaucoup en Italie, à la Roma par exemple.
Mais la Roma, ils ont refusé 4 mois de salaire! 4 mois de salaire!
Et alors, c'est un club. Voilà, Tous les autres clubs ont fait quoi?
D'accord. Mais à chaque fois qu'on te dit quelque chose, tu refuses. C'est comme hier. Je vous dis à toi et à Pierre. Les autres championnats font tout pour que ça reprenne et s'organise. C'est dans l'équipe ce matin. C'est clair et net. Et vous fermez les yeux. Vous êtes pas foutus d'ouvrir les yeux.
Mais en quoi, c'est quand même incroyable. Vous niez l'évidence. En quoi le championnat de France ne fait rien pour que ça reprenne? Mais qu'est-ce que tu me racontes?
C'est une blague, quoi. Mais tu nous écoutes. Mais t'as vu le bordel que c'est en ce moment? Mais t'as vu les prises de position différentes des présidents? Mais est-ce que tu te rends compte de ce qui est en train de se passer dans notre pays?
Ne confonds pas tout, Daniel. Je parlais pas des présidents. Moi, je parlais des joueurs. Hier, avec Pierre, on parlait des joueurs. Va pas me mettre les présidents dans l'affaire ou ceux qui sont dans
les joueurs par le biais de leur syndicat en bois. Les présidents qui sont pas d'accord entre eux.
Syndicat en bois. C'est des conneries aussi, ça.
Bon, écoute, alors syndicat tout court. Syndicat tout court.
Ah oui. C'est gratuit.
Si tu veux, entre les joueurs, entre les présidents, entre mais tu me dis pas qu'il y a une unité.
Alors,
dis pas que les gens. Enfin, tu vois bien que ça part dans tous les sens. Il y a pas un geste, il y a pas une initiative à part celle du mec qui a donné dans son coin. Il y a pas une initiative positive. Quand tu vois l'OM, on n'a pas encore parlé de l'OM. Mais ce qui est en train de se passer entre Hiro et trois joueurs majeurs du club, mais c'est abominable.
S'il vous plaît, j'aimerais quand même sur Yvan Lemay donner mon.
C'est horrible, Jérôme.
Donner mon point de vue et que vous l'écoutiez, parce que moi je suis globalement assez d'accord avec Yvan Lemay, mais. Tout de même, moi je fais une différence entre il y a deux types de clubs aujourd'hui. Il y a les clubs qui sont détenus effectivement par des fonds de pension. Je prends le cas par exemple de Bordeaux, c'est le cas. Bordeaux c'est un fonds de pension ou Lille, c'est des fonds de pension qui gèrent des milliards, qui là eux effectivement d'un simple geste peuvent tout à fait se passer du chômage partiel, ça n'aura aucune conséquence.
Mais bien sûr.
Mais attends, laisse-moi aller au bout. Il y a des clubs différents. Je prends les clubs qui ont des petits budgets. Prenons les plus petits budgets de Ligue 1. Des clubs comme Nîmes, des clubs comme Brest ou d'autres. Eux, attention, ils sont bien plus en danger. Tu vois, il n'y a pas de trésorerie. Bon, alors donc moi, Ils vont aller, mais je comprends ça.
Oui, mais comment tu les payes? Je veux dire, à un moment, tu fais quoi? Les mecs ne veulent plus reprendre. Mais ils veulent continuer à être payés. Je comprends pas l'histoire.
Ce que tu me dis là, ça n'a rien à voir. Moi, je te parle de la prise de position d'Yvan Lemay. Je te dis que philosophiquement et éthiquement, je suis d'accord avec lui. Mais je te dis que on peut pas demander ça à, on peut pas traiter Bordeaux.
C'est bien ce que je disais. Il faut différencier.
Si on l'applique à 70% des clubs où les mecs gagnent tous quasiment autour de 70 000 euros, excuse-moi quand même. Excuse-moi.
Le PSG a un actionnaire qui peut l'assumer, Monaco un actionnaire qui peut l'assumer, Marseille un actionnaire qui peut l'assumer, Rennes, Bordeaux
70% des clubs,
Lille on l'a dit, Lyon on l'a dit, donc effectivement ça représente quand même une majorité. Voilà. Maintenant, pareil pour les clubs de Ligue 2. Bah, les clubs de Ligue 2, il y en a qui sont en galère financière, faut le dire, avec des, comme l'a dit Laure, des salaires qui sont pas les salaires de Ligue 1. Pour eux, je vois pas pourquoi ils pourraient pas bénéficier du système, tu vois, qui les aide.
Et tu parles de Bordeaux et tout ça, mais ils sont dans la merde aussi financièrement. La preuve, c'est qu'ils veulent réduire le stade, ils veulent réduire ceci, cela.
Non, mais
arrête
de me dire
qu'on parle pas des salaires, Jérôme. On parle juste de salaire, là. On parle de toucher le chômage partiel. C'est le contribu.
Ils sont dans la merde parce que leur budget de fonctionnement qui leur a été alloué par leur actionnaire ne leur suffit pas et qu'ils sont obligés de faire avec. Mais, leur actionnaire principal, il en a tellement dans les poches, si tu veux, qu'il pourrait demain acheter Messi, s'il veut. Mm-hmm. Voilà, sauf que c'est pas sa stratégie.
Il le fait pas.
Voilà, il le fait pas. Ah. Bon,
mais il pourrait couvrir 2 mois ou 3 mois et éviter qu'on ait recours au chômage partiel pour ces salaires-là.
Prenons la vie de Sébastien.
Je trouve que ce serait vraiment le minimum.
Pour conclure le dossier, Sébastien.
Mais en fait, si ces clubs-là ne prennent pas, moi j'ai une question à vous poser. Si ces clubs-là,
Vas-y.
Non, mais si ces clubs-là ne font pas appel à l'aide de l'État, ok. Est-ce que pour autant l'argent qu'ils n'ont pas pris, ça va être reversé à d'autres?
Bah, évidemment, non, mais en fait, l'État. Jérôme, la réponse est oui, Parce que
bah oui, évidemment.
L'État a décidé d'une enveloppe de plusieurs milliards d'aides aux entreprises.
Voilà. Ça sera toujours ça de moins dans l'enveloppe.
Cette enveloppe n'est pas extensible, donc voilà. c'est un jeu de, comme ça de.
Il y a plein de secteurs d'activité qui en ont plus besoin.
Et il y en a aussi qui sont servis de ça, justement, d'avoir recours aux aides de l'État aussi, pour maintenir le salaire dans son ensemble aux autres salariés du club. Il y en a aussi qui ont utilisé ça, j'ai vu ça en Angleterre.
Et je rappelle qu'il y a des entreprises privées qui ont, elles, de la trésorerie et qui ont dit, nous, par solidarité, nous n'utiliserons pas le chômage partiel parce qu'on
Bravo
peut
nous-mêmes Gilbert, merci de le dire.
Voilà. Les salaires voilà. de nos employés.
Bon, voilà. Donc, Yvan Lemay a parfaitement raison.
Allez, l'avis de Sébastien pour conclure. Sébastien, bonsoir.
Oui, salut à tous. Et puis, bonjour. Bonsoir à tous. Et puis, merci d'être là en ces temps compliqués. Hein.
Merci à toi de nous écouter.
Ouais, merci à toi d'être là aussi.
On est là pour vous tous.
On est ensemble, en fait.
Ouais, par parenthèse, un petit coucou spécial à Daniel, parce que je crois savoir qu'il est originaire de la même région d'Italie que moi. Voilà.
Ouf. C'est tout. Oh là.
C'est-à-dire, ils sont en Gis.
Ouais, voilà. Voilà. Bon, moi, t'es agrigente, hein. Voilà, agrigente, ça lui dit peut-être que.
Oh, un petit peu quand même, oui.
Un petit peu quand même, voilà.
Évidemment.
Et voilà, bon. J'ai bien apprécié d'ailleurs sa petite recette des pâtes au carbonara que je valide, bien évidemment.
On ne mange pas, hein. En plus chez nous, c'est pas un truc de chez nous, ça.
Non, c'est pas un truc de chez nous, mais enfin bon.
Ah bon, on mange pas de pâtes en Sicile, ça c'est.
Non, ouais, carbonara, pas les pâtes, ça n'a rien à voir.
Si tu développes la cuisine sicilienne, là, j'en ai pour 3 heures.
C'est déjà un monde à part. Donc, ton avis là sur notre débat, Sébastien.
Écoutez, c'est vrai que ça pose question. Moi, je vous cite mon cas. Actuellement, je suis en chômage partiel, je me fais chier chez moi. Je suis papa séparé, donc j'ai pas mes enfants actuellement, donc autant vous dire que voilà.
Tu bosses dans quel secteur?
La formation, donc établissement qui reçoit du public. Donc le 11 mai pour moi, c'est même beaucoup plus tard. Voilà.
Ok.
Donc chômage partiel et vient de passer là, ces jours derniers un accord d'entreprise que les salariés ont validé à la majorité avec les représentants d'entreprise pour qu'on baisse mutuellement le salaire pour pas que la boîte se plonge, si vous voulez. Donc vous voyez un petit peu dans quel état d'esprit je peux me situer, si vous voulez. Et je pense que je suis pas le seul Français comme ça.
Donc toi, t'aimerais que les footeux fassent la même chose, quoi.
Disons que, en tout cas, le haut du panier, moi, quand j'apprends que c'est difficilement acceptable en ces temps actuels, d'entendre que les joueurs parisiens, par leur plus grande gratitude, reportent leur salaire et non pas s'asseoir sur leur salaire.
Alors, on ne sait pas encore, il y a des négociations en cours.
On ne sait pas en cours, mais comme toi, je suis de ton avis et j'espère que ça ne va pas être un report.
J'espère bien.
Mon Dieu.
Je trouve que, moi je suis supporter de la Juve. La Juve, ici, je crois.
C'est un report à la Juve.
Écoutez,
franchement, on n'est pas sûr, les amis. Franchement, on n'est pas sûr. Moi, j'ai pas lu ça. Il faudrait demander à Simonet. Mais moi, j'ai entendu que beaucoup avaient lâché.
Écoutez, j'ai lu encore dans la Gazzetta dello Sport qu'ils ont accepté de faire une croix sur un mois et demi de salaire. 2 mois et demi supplémentaires étant reportés sur le bilan financier 2020-2021.
Donc en fait, là, on coupe la poire en deux par rapport à ce qu'on avait comme info.
C'est pas terrible, mais c'est un peu mieux, on va dire. Voilà. Mais bon, franchement, les joueurs du haut du panier, les gars, faut arrêter les conneries, quoi.
Bien sûr.
Moi, je trouve que là, faut arrêter les conneries. Mais ça doit venir d'eux-mêmes. On doit pas les obliger, normalement. Ça doit venir d'eux-mêmes, bordel. Désolé.
Écoute, pour l'instant, en France, on attend encore, en dehors de la proposition de l'UNFP, qui en fait n'était qu'un cadre que les clubs pouvaient utiliser. Pour l'instant, on attend effectivement, et ça négocie de partout, à Lyon, à Marseille, à Paris, il n'y a rien pour l'instant.
J'espère que les joueurs vont avoir un peu de plomb dans le crâne, quoi. Voilà.
C'est tout. Sébastien, le message est passé. Merci à toi. Bonne soirée. On continue le débat dans quelques instants, les gars. On se retrouve tout de suite dans l'After.
RMC jusqu'à minuit. L'After Foot. Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, on est là, effectivement, avec Jérôme Rotel, Laure Le Payeur, Daniel Riolo. On continue notre débat, beaucoup de messages. Hein. Tiens, j'ai par exemple Goubra qui me dit LVMH, par exemple, a refusé le chômage partiel. Daniel nous dit, en même temps, 4,5 fois le SMIC pour les mecs à plus de 50 000, ça représente pas grand-chose. C'est plafonné, en plus, à un peu plus de 5 000 euros. Donc, pour les joueurs. Mais enfin, attention, le chômage partiel concerne aussi tous les salariés des clubs, qui, eux, ont des salaires beaucoup plus bas, en l'occurrence. Voilà. Allez, on va conclure avec Edouard qui voulait intervenir au 32-16. Salut Edouard.
Oui, bonsoir messieurs. Alors, moi, je voulais demander surtout l'avis, par exemple, à Daniel. Les footballeurs ont des très gros salaires notamment, et beaucoup de clubs de foot appartiennent à des fonds d'investissement, donc cet argent du chômage partiel va permettre à ces fonds d'investissement de faire des économies. Mais n'y a-t-il pas notamment d'autres grands secteurs d'activité en France qui appartiennent à des fonds d'investissement, des fonds de pension, qui sont cotés en bourse et ont leurs employés, leur management, beaucoup de gens au chômage partiel et qui coûtent très cher à l'État. Alors à ce moment-là, je veux bien qu'on demande un geste aux footballeurs parce que ce sont des métiers très médiatisés.
Non, mais tu as raison. Là, nous, on parle de ça parce qu'on est en train, on est dans une émission de foot. Mais oui, je trouve que alors qu'on est devant quelque chose qui ressemble à une catastrophe économique avec plein de secteurs sinistrés. Oui, je suis d'accord que ça pourrait également toucher d'autres secteurs.
Alors, il y a un autre problème. Edouard, quand même. En fait, il y a un truc qui arrive dans le foot qui n'arrive pas dans les grosses sociétés qui ont une gestion différente, c'est que dans le foot, dans le foot français, parce qu'il y a certains pays où c'est différent, il n'y a pas de trésorerie. C'est-à-dire que les clubs ne sont... Une grosse boîte qui fonctionne, qui fait 5 milliards de chiffre d'affaires par an, par exemple, elle a la capacité de se dire, moi, je mets 1 milliard au coffre, en gros, en cas de coup dur, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer, que coronavirus, crise économique, mon secteur à moi qui a des problèmes et tout, je sais pas, le tourisme, j'en sais rien. Et en fait, dans le foot, on ne fait pas ça, ce qui est en fait une grave erreur.
Et tu sais d'ailleurs, tiens, Gilbert, tu me fais penser à un truc.
Si les clubs français, il n'y a pas que les français, mais bon, si les clubs français avaient une trésorerie, un trésor de guerre qui pourrait activer en cas de coup dur comme c'est le cas en ce moment, les choses seraient beaucoup plus faciles.
Et il n'y a pas que ça, Gilbert.
Serait bien plus tranquille.
Tu fais bien de dire ça, et je vais même ajouter quelque chose. Si tu fais le calcul des droits télé qui ont été encaissés par la Ligue depuis, on va dire, 10-15 ans, si chaque année tu avais pris 2-3%, tes 400 millions de pertes ou machin, tu les avais larges au cela.
Et je rappelle, quel est le poste principal?
Trésor de guerre à mettre de côté. Tu
ou par l'argent des clubs de foot.
Le problème, c'est qu'ils peuvent pas aussi.
Oui, mais alors, Jérôme, en fait.
Chaque année, tu crées une sorte de petit trésor de guerre.
Tu sais pourquoi ils peuvent pas? Parce que quel est le poste qui tend le plus la trésorerie des clubs? C'est la masse salariale. C'est les salaires des joueurs.
Parce que c'est mal géré, parce que c'est toi qui veux bien la donner, c'est parce que c'est toi qui te mets en péril. Regarde aujourd'hui. Tout à l'heure, on disait, je disais à Jérôme, on n'a pas eu le temps d'en parler. Mais dans ce qui oppose, dans ce qui oppose les trois joueurs de l'OM à Héro, là, genre ils veulent pas baisser et tout. Alors d'un côté, tu pourrais te dire. T'es contre les joueurs parce que c'est quand même salaud de leur part de pas vouloir baisser les salaires et Héros qui fanfaronne partout dans les médias en disant j'attends un geste.
C'est sûr que les dirigeants ont le beau rôle, faut le reconnaître.
C'est ça que j'allais dire pour, j'allais dire pour contrebalancer. J'allais dire, mais dans le même temps, Héro, c'est quand même le mec qui a creusé le trou de la dette et qui a fait que l'OM est dans cette situation en ce moment. Alors c'est vrai, on peut dire c'est plutôt lui qui a décidé de donner ce salaire à Payet et qui a mis le club en péril dès ce recrutement-là et qui en gros veut réparer ses bidons en demandant aujourd'hui aux mecs de baisser leur salaire. Bon, je caricature parce que j'aimerais bien que quand bien même il le baisse, même si Héro s'est planté dans sa gestion, mais voilà à quoi on arrive, à des joueurs, et même à Monaco. À Monaco, t'as des joueurs qui voient les mecs se rincer depuis des années dans leur business de trading, de tout ça, et qui doivent se dire bah ouais, mais donc maintenant là, nous on est de la marchandise, vous nous prenez parce que de toute façon vous savez que vous allez nous revendre, machin, tout le monde va croquer, et là aujourd'hui vous nous demandez des comptes. Le foot s'est également mis dans une situation avec ses masses salariales qui ont explosé, avec ses gestions très aléatoires. Bon, ben voilà.
Et puis, il a compté, ça fait qu'aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que Jérôme, ils trouvent pas d'accord parce que ce que leur demande aujourd'hui et je le sais parce que j'en ai eu au téléphone, ce que leur demande le club, c'est un effort qui est énorme. Et c'est pour ça qu'ils trouvent pas d'accord, parce que si ils trouvaient un juste milieu. Et je peux te dire que dès demain, ça serait fait. Mais sauf que entre avoir une perte de salaire de 20 ou 30% et une perte de salaire de 60-70%, ce que je veux dire, il faut trouver aussi. Il faut pas que le footeux se retrouve impacté comme ça aussi, quoi. Il est pas le seul responsable de tout ça, comme tu l'as dit.
Non, mais tout le monde le dit depuis toujours. C'est-à-dire, on n'a jamais mis le couteau sous la gorge des dirigeants pour qu'ils donnent les salaires qu'ils donnent. Mais c'est sans doute une des leçons de la crise, Jérôme. C'est-à-dire que peut-être que les politiques salariales vont être revues.
Mais
que les
salaires
de ces gens vont baisser. Alors ça, Gilbert, je me méfie de toutes ces phrases, le monde d'après, ce qui va se passer.
On verra.
Tout.
J'ai mis une hypothèse.
Moi, j'ai du mal à y croire.
Si tu fais ça en France, Gilbert, ça veut dire que si tu fais des salaires peut-être moins attractifs, bah en fait, t'attires encore moins.
Les mecs
de
se partiront encore plus. Bah, les mecs vont encore plus se barrer, quoi.
Beaucoup de clubs étrangers ont le même problème. Oui, Edouard, vas-y.
Si je peux me permettre, messieurs, au-delà des salaires ou de la gestion des clubs, est-ce que ce ne serait pas intelligent de faire comme dans certains secteurs, notamment le secteur bancaire, de mettre en place dans tous les clubs un fonds, mettre de l'argent, tant d'argent de côté
par la trésorerie dont on parlait
tous les ans, en cas de coup dur. Alors bon, on sait que ce genre de situation n'arrivera pas de sitôt, mais en cas de descente, notamment de relégation, ça pourrait permettre aussi à des clubs qui sont relégués de pouvoir mieux absorber leur relégation. Et en cas de coup dur, quoi qu'il arrive, ça pourrait permettre de pouvoir absorber plus facilement les coups durs.
Edouard, merci. Comme quoi, la gestion grand-papa du Crédit Agricole, parfois, c'est plus rassurant que la gestion fonds de pension. Hein. Mais bon. On n'aura pas le temps, malheureusement, de prendre Franck, qui voulait nous dire que les joueurs devaient se soucier de leur image auprès du grand public et faire un geste. Ils gagneraient du crédit auprès des supporters.
Ils en font des gestes. Il faut arrêter les conneries.
On sait que, par exemple, Mbappé a fait un don conséquent il y a quelques semaines.
Ils en font.
Personne ne leur met en question.
Excuse-moi. Reprends le début de l'émission et vois ce qu'on est en train de faire.
Non, là, on parlait d'accord collectif, On parle d'accord collectif. On parle d'utilisation de l'argent de l'État.
On parlait de solidarité depuis hier. Solidarité. Arrêtez. Et je ne veux pas passer mon temps à défendre les fouteux parce qu'il y a des choses.
Heureusement que tu ne passes pas ton temps, sinon, qu'est-ce que ça serait?
Mais il y a des choses qui me contrarient, Daniel. Arrête tes conneries. Mais toi, par contre, cracher dans la soupe, oui, ça, tu le fais, ouais.
Selon les cas, Jérôme, je m'adapte. Alors que toi, tu es monolithique et tu restes dans la défense du joueur et c'est tout. Alors que moi, selon les cas, j'ai une opinion qui peut différer. Je reste pas fixe et braqué sur une seule idée. C'est pas vrai. L'autre jour, les joueurs, je les défendais quand ils se font attaquer par tout le monde sur l'indécence, il faut pas reprendre ceci, cela. Non, c'est pas vrai. Jérôme, tu peux pas me faire ce procès.
Dans un instant, on part en Suisse. On va voir si la situation là-bas est meilleure. Pas forcément, vous allez le voir dans quelques instants. À tout de suite.